Bonjour, je suis Nicolas Dufresne et vous écoutez La fourmi dans la coquille, le podcast hélicoïdal. L'IA censée remplacer le travail humain pourrait-elle être aussi un danger existentiel pour l'humanité ? La fourmi dans la coquille, saison 1, l'IA statistique, un trou noir philosophique, épisode 2, l'obsolescence de l'humain. Aujourd'hui, on s'intéresse au remplacement de l'espèce humaine par l'intelligence artificielle. Dans un premier temps, on va prendre ça au pied de la lettre et on va revenir sur les déclarations de pas mal de dirigeants, ingénieurs, concepteurs, fondateurs d'entreprises de la tech il y a tout juste un an qui nous annonçaient la fin probable de l'humanité détruite par une super méga giga intelligence artificielle générale, une singularité qui serait aussi dangereuse que, tenez-vous bien, la Covid-19 et les guerres nucléaires. Spoiler alert, c'est pas la peine de vous acheter un abri anti-atomique tout de suite, Terminator c'est de la fiction. Par contre, on reviendra sur une autre promesse des mêmes gens, à savoir l'abolition du travail humain, la victoire de la flemmardise, bientôt grâce à l'IA, les humains ne travailleront plus. Spoiler alert, il n'y a pas vraiment de raison de croire à ça non plus, et on va voir ensemble ce qu'il y a derrière l'IA, et en l'occurrence, la quantité de travail humain qu'il y a toujours derrière l'IA. Atténuer le risque d'extinction provoqué par l'IA devrait être une priorité mondiale, au même titre que d'autres risques pesant sur la société tout entière, comme les pandémies et la guerre nucléaire. Ce que je viens de vous lire, c'est une déclaration signée en mai 2023 par de nombreux dirigeants et influenceurs des industries technologiques, comme Sam Altman, le dirigeant de OpenAI, Bill Gates, ancien dirigeant de Microsoft, Elon Musk, que tout le monde connaît, et bien d'autres encore, qui a été publié par le Center for AI Safety, une ONG californienne. Ce que nous dit cette déclaration, c'est que selon ces gens, l'intelligence artificielle pose un risque existentiel pour l'espèce humaine. On risque de disparaître à cause d'elle comme on pourrait disparaître d'une guerre nucléaire généralisée ou une pandémie gigantesque. Ça paraît peut-être un tout petit peu exagéré et on va pouvoir revenir là-dessus sur les dangers de l'IA. Ces mêmes gens nous ont vendu l'IA comme une rupture technologique, une révolution, mais est-ce que c'en est une vraiment ? Contrairement à ce que nous martèlent les entreprises qui les développent, on peut pas dire que les IA, elles aient complètement changé nos vies. J'ai pas encore vu la révolution dans ma vie quotidienne grâce à l'IA. Après, on peut se demander si l'IA aurait pas un côté révolutionnaire et vraiment utile, technologie de rupture, du côté des développeurs informatiques, de gens qui programment et qui pourraient profiter de l'IA pour faire des nouvelles choses. Mais comme on l'a vu dans l'épisode précédent, en fait, l'IA existe depuis les années 50-60, on peut pas franchement dire que c'est révolutionnaire ni même inattendu, quoi qu'en dise la campagne de marketing orchestrée par OpenAI à la sortie de ChatGPT en 2022. Est-ce que les IA sont pour autant inoffensives et inintéressantes, en faisant abstraction de leur présence inévitable dans toutes les conversations numériques ? Eh bien, la réponse à cette question est double. D'un côté, on a des personnalités, des dirigeants et des grandes entreprises des technologies et du numérique qui ont tenté de prévenir la société d'un énorme danger potentiel pour l'humanité, en soutenant l'idée que le développement des IA pourrait rapidement mener à ce qu'ils appellent une singularité, c'est-à-dire un point de bascule où l'intelligence artificielle deviendrait générale, c'est-à-dire qu'elle serait capable de tout faire, y compris de s'améliorer elle-même, entrant comme ça dans une croissance exponentielle et complètement incontrôlable. C'est dans ce contexte qu'ils ont signé la déclaration que je vous ai lue tout à l'heure. Aussi dangereuse que soit une intelligence artificielle générale, selon eux, sous leur contrôle, entre leurs propres bonnes mains de génieux ingénieurs, elle pourrait régler tous les problèmes de l'humanité. Par problème de l'humanité, ils entendent en général mettre fin au réchauffement climatique, soigner toutes les maladies, abolir le travail, Et puis on tombe assez vite dans leur conception transhumaniste où finalement le but c'est d'atteindre l'immortalité grâce à la technologie. Ça justifierait la course dans laquelle ils s'engagent afin d'atteindre cette intelligence artificielle générale au plus vite. Alors, outre le fait que ces gens, ils savent pas vraiment définir les problèmes à résoudre en question de manière un peu plus précise que ce que je viens de dire, on peut aussi sincèrement douter que leurs intelligences artificielles atteignent un jour ce point de bascule, tellement la technologie qui les sous-tend est encore loin de seulement approcher le fonctionnement du cerveau d'une poule. Agnès, ma poupoule, si tu nous écoutes, ne te vexe pas, tu es très intelligente pour une poule. Alors même que l'intelligence artificielle a déjà siphonné une quantité de données à peu près équivalente à l'intégralité de ce qui est disponible sur Internet tout en consommant une énergie équivalente à celle de plusieurs dizaines de millions de cerveaux humains pour chacune des grandes IA qui ont été développées. Alors non, je pense pas que le danger soit là, dans cette future et hypothétique intelligence artificielle générale. Pour moi, ce ne sont clairement que des gesticulations à visée purement communicative et commerciale. On fait parler, et c'est bon pour le business. Faut reconnaître aussi que c'est un moyen assez malin d'éviter d'avoir à parler des problèmes bien plus concrets et immédiats que pose l'intelligence artificielle aujourd'hui. Sans spéculer et se lancer dans un exercice un peu hasardeux de prospective, on peut quand même noter que les intelligences artificielles statistiques, elles ont l'air de heurter un plafond. Après certes quelques brèves mais intenses années de développement fulgurant, la mine de données disponibles à leur entraînement a bien l'air d'être complètement épuisée, alors que leur niveau, qui certes est impressionnant, c'est toujours sympa à voir, il n'empêche qu'il est assez éloigné de la perfection qu'on attend d'une intelligence tout court. Alors on commence à entendre des gens dire que effectivement le développement par la force brute, c'est-à-dire utiliser uniquement l'apprentissage automatique sur un volume de données gargantuesque, est peut-être arrivé à une limite, mais c'est une limite qui serait franchissable en utilisant de nouvelles méthodes symboliques, logiques et analytiques, autrement dit en revenant à une programmation informatique un peu plus classique comme on l'a fait depuis longtemps avec un système de logique et d'algorithmes, autrement dit en donnant des règles que l'IA pourrait réellement comprendre. Il n'empêche qu'il est bien peu probable de voir soudainement un développement beaucoup plus rapide dans ce domaine que ce qu'il a pu être depuis les 70 ans que l'informatique existe. En tout cas, si l'intelligence artificielle ne représente pas un danger existentiel pour l'humanité, l'analyse qu'on va faire tous ensemble ici va nous montrer qu'elles sont pas pour autant complètement inoffensives. Si on veut aller voir ce qui se passe un peu derrière une intelligence artificielle, on va vite découvrir que ce qu'il y a derrière, c'est aussi pas mal d'humains, finalement. Déjà, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de définition de l'intelligence qui soit pas en rapport avec l'être humain. On ne sait pas définir l'intelligence autrement qu'en faisant référence à l'être humain. Quand on qualifie l'apprentissage profond d'intelligence, même artificielle, on lie sémantiquement l'informatique à l'être humain et on entretient le mythe selon lequel ces programmes informatiques seraient capables de remplacer l'être humain. Alors, c'est vrai que ces programmes peuvent effectuer des tâches qui auparavant étaient effectuées par des gens de manière assez comparable à un métier à tisser. Pourtant, on ne peut pas vraiment qualifier le métier à tisser d'intelligent. Il est éventuellement d'une conception intelligente, mais il n'est pas pour autant intelligent lui-même. Et on va se rendre compte qu'il est même faux de dire que cet apprentissage profond remplace effectivement du travail humain, parce qu'en fait, tout au mieux, il le déplace ou il le masque de multiples manières. Si on prend d'un côté la gourmandise en matériaux et en énergie de ces gigantesques réseaux de neurones, cette manière de résoudre des problèmes ou effectuer des tâches automatiques nécessite en fait bien plus de travail que ce qu'aurait fait une simple personne avec un ordinateur normal qui soit pas un serveur surdimensionné. Avec l'expansion de l'exploitation minière, de la transformation des métaux, de la fabrication des puces informatiques et des bâtiments qui les abritent, ainsi que des systèmes de refroidissement, qui sont la conséquence de la croissance de l'intelligence artificielle, ce serait naïf de croire que tout ça ne nécessite pas aussi un net accroissement de l'activité humaine et du travail associé. Plus on mine, plus on a besoin de mineurs. Et puis, une fois que tout ce matériel est assemblé et en fonctionnement, l'intervention humaine est toujours indispensable. Sans même parler des concepteurs et des programmeurs de systèmes, il y a aussi toutes les petites mains, les ouvrières et les ouvriers du CLIC chargés de catégoriser les données d'apprentissage, de les préparer, de les nettoyer, et puis tous ces humains nécessaires à la surveillance et à la correction des erreurs de ces intelligences artificielles stupides. Les concepteurs des IA, ils essaient à tout prix de nous cacher cette somme énorme de travail afin de présenter leur outil comme une espèce de baguette magique qui nous soulagera de plein de tâches ingrates. Entre parenthèses, parce que oui, dans l'esprit capitaliste et transhumaniste de ces entreprises, même faire de l'art, c'est un travail, une tâche ingrate dont il faudrait se libérer, surtout si on a un employeur ou un commanditaire qui doit payer pour notre art. Ils essaient donc de masquer le fait qu'ils n'ont fait que déplacer le travail ailleurs, notamment afin de le payer beaucoup moins cher, et c'est bien plus facile depuis le monde occidental, du bon côté de l'IA, de fermer les yeux et d'essayer de pas trop s'en préoccuper. J'ai un bon exemple qui montre comment on essaie de cacher l'humain derrière la machine comme ça, avec la voiture autonome. Alors que Elon Musk nous promet tous les ans depuis 2015 que la voiture autonome existera dans l'année, les voitures sans pilote ont soi-disant commencé à circuler dans plusieurs villes du monde entier, y compris avec des passagers commerciaux. Je dis soi-disant, on va voir pourquoi après. Les services de police s'inquiètent d'ailleurs de l'attribution des responsabilités en cas d'accident et en l'absence de conducteur, alors que les accidents sont pas si rares qu'ils en ont l'air et peuvent même être catastrophiques. Par exemple, le 13 juin 2024, aux États-Unis, une Tesla roulant à toute vitesse, en mode autonome, a percuté de plein fouet et en pleine nuit une voiture de police, bien jouée, qui était là pour réguler la circulation, avait tous ses gyrophares allumés et était vraiment difficile à ne pas voir. Si vous voulez vous faire une idée, vous pouvez regarder la vidéo de l'accident sur Instagram qui a été posée par la police de Fullerton où ça a eu lieu. Alors le conducteur était bien présent dans son véhicule, mais bon, il était trop occupé sur son téléphone pour la conduire. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, les policiers ils ont pu se précipiter sur le trottoir, tout va bien, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Mais ce qu'on oublie dans tout ça et ce qu'on essaie de cacher, c'est qu'en fait, tous les véhicules soi-disant autonomes sont en réalité surveillés et contrôlés par un opérateur à distance. Aucune voiture autonome aujourd'hui n'est autonome, et les pouvoirs publics qui s'inquiètent de l'attribution des responsabilités en cas d'accident le savent bien. Il y a toujours un pilote, même s'il n'est pas dans la voiture. Un vrai problème, en fait, c'est bien l'humain derrière l'intelligence artificielle. Et puis c'est un problème qu'on retrouve pour tous les automates, en fait. Et en particulier quand ça concerne la sécurité des personnes et des biens. Alors on sait que le contrôle humain des automatismes, ça fonctionne pas. Toujours, les gens qui doivent surveiller un robot, ils finissent par avoir une confiance démesurée envers l'automatisme. C'est prouvé par plusieurs études. Et c'est sans compter le fait qu'on va progressivement, de toute façon, leur demander de surveiller toujours plus de machines à la fois. Généralement par souci d'économie, évidemment. Si on confie à un humain la surveillance d'un automate, un accident, une faute d'inattention va inévitablement avoir lieu. C'est l'exemple du chauffard au téléphone, trop confiant dans sa voiture et dans l'IA de Elon Musk. Alors c'est vrai pour les voitures, c'est vrai pour la vidéosurveillance, c'est vrai pour la modération des contenus en ligne, c'est vrai pour les diagnostics en médecine. Plus une tâche est automatisée et monotone, du coup, moins on y prête attention. C'est humain, c'est comme ça, c'est inévitable. C'est loin d'être une découverte récente, et la preuve c'est par exemple pour cette raison qu'on ajoute pas mal de dispositifs dans les cabines de pilotage des trains et dans l'habitacle des voitures pour s'assurer que l'attention du chauffeur ne baisse pas. Donc on le voit, on essaie de cacher les présences humaines derrière les machines, les automates, les robots. Et en même temps, quand on parle de la sécurité des IA, on va nous dire que la fiabilité est assurée grâce à ce qu'on appelle l'humain dans la boucle. En fin de compte, avec un humain dans la boucle, tout ira bien. C'est complètement hypocrite parce que, on le sait, l'humain n'est pas efficace pour contrôler un automatisme. On sait pas faire ça, on n'a pas le cerveau pour, tout simplement. Finalement, pourquoi on a besoin de l'humain dans la boucle? Tout simplement parce qu'on a besoin d'un bouc émissaire pour les défaillances de l'IA. Et oui, si l'IA foire, ce ne sera pas la faute des développeurs, ce sera bien la faute de l'humain qui la surveille. On lui imputera toutes les responsabilités des accidents dus à son inattention, dus à ses biais cognitifs qui sont pourtant bien connus et présents dans chaque d'entre nous, et on remettra jamais en cause la présence même de l'automatisme. Au final, les arnaqueurs qui vendent de l'IA, qui cachent en réalité des opérateurs humains, c'est peut-être pas si grave. C'est vraiment arrivé, une start-up française a embauché des gens à Madagascar pour se faire passer pour des agents conversationnels d'intelligence artificielle. À Madagascar, parce qu'on y parle français et que les salaires sont pas chers. Un autre exemple encore plus littéral d'IA déguisée, Elon Musk, encore lui, a réellement osé présenter un robot bipède des intelligents soi-disant, qui en fait était un humain portant un simple déguisement. Au final, que ce soit dans le cas des véritables IA, où on a une armée d'humains qui ont servi à les entraîner et les aligner, ou que ce soit les bagnoles contrôlées à distance par un humain, ou que ce soit carrément des humains déguisés en IA, dans tous les cas, effectivement, l'intelligence artificielle a bien besoin de pas mal de monde derrière. C'est peut-être juste pour ça qu'on devrait la qualifier d'intelligente, mais c'est pas très sympa de qualifier tous ces gens d'artificiels simplement parce que ce sont des pauvres dans des pays loin de nous. Derrière ces exemples assez emblématiques, les mensonges des entreprises technologiques en général et de l'IA en particulier sont très nombreux. Le concept même de l'IA réside en fait surtout dans l'opacité des processus, des algorithmes et de l'organisation de la main-d'œuvre humaine. À travers tous ces exemples, nous voyons que finalement, les IA ne sont peut-être pas sur le point de remplacer ni l'humanité, ni le travail de l'humanité. Sans être une rupture technologique, nous avons vu qu'elles sont bien une nouvelle brique dans l'édifice du capitalisme ultra-libéral, libertarien et numérique, qui tend à s'imposer à la population mondiale et amplifie les problèmes préexistants. Dans les prochains épisodes, en mettant en relation l'intelligence artificielle face à la créativité et l'intelligence humaine, nous allons voir comment, bien au-delà des problèmes graves mais déjà bien connus d'organisation et d'exploitation du travail, des problèmes économiques, démocratiques et écologiques, l'IA pose aussi des questions philosophiques auxquelles il est bien urgent de réfléchir et d'apporter des réponses alternatives. Pour approfondir le sujet et lire la documentation associée, rendez-vous sur lafourmi.media et accéder aussi à toutes les sources de tous les épisodes. C'était La fourmi dans la coquille, le podcast qui cherche la sortie par Nicolas Dufresne. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce podcast, et en particulier Anna Halsey. Tout au long de ce podcast, vous avez pu entendre des musiques de Aluminum Forest, Mountain Sounds et Christian Taus sous licence Creative Commons. Ce podcast est entièrement réalisé avec des logiciels libres et open source. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos réactions à contact@lafourmi.media. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et sur notre serveur Discord disponible sur lafourmi.media. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast sur lafourmi.media où vous pourrez faire un don ou trouver des options pour un soutien régulier.